Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanc et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec au gré des émissions les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanc et Philippe Goudard. Dernière émission de la saison consacrée à François Villon, toujours au grand François Villon. Voilà, donc on dira un petit au revoir avec tous les rendez-vous pour la saison prochaine à la fin de cette émission. On a laissé donc François Villon dans cette époque trouble, enfin la moins bien connue de sa vie, qui est cette période de 4 ou 5 ans, donc après le vol qu'il a commis au Collège de Navarre et surtout son inculpation qui lui fait fuir Paris, donc s'ouvre alors une période pendant laquelle Villon va errer probablement. On n'a aucune donnée précise de cette époque, à part uniquement les œuvres, c'est-à-dire quelque chose qui nous viennent du concours qu'il a, du concours de Blois, c'est-à-dire qu'il est probable que Villon se soit présenté. Il était dans l'Ouest certainement, puisqu'il dit partir à Angers, et plusieurs de ses compagnons en témoignent, mais rien n'est moins sûr, parce que partir à Angers, ça voulait dire aussi aller se cacher en argot. Donc il part dans l'Ouest de la France, ça c'est sûr, puisqu'il participe au concours de Blois à la cour de Charles d'Orléans. Et puis surtout, qu'il s'encoquille, c'est-à-dire qu'il va rejoindre les bandes de malfrats, la Coquille, qui est une véritable mafia, quoi, une des gangs organisés, parce que bon, on a parlé déjà dans la précédente émission de l'état de désordre de la France à cette époque. Et donc il va rentrer dans cette espèce de confrérie. On pense probablement qu'il était un crocheteur, parce que ces coquillards se divisaient en différents ordres. Il y avait les crocheteurs, c'est-à-dire les gens qui ouvraient les coffres. Il y avait les rueurs, c'est-à-dire ceux qui tuaient au couteau, qui raisonnaient les gens en les tuant, tout simplement. Il y avait également les biaiseurs, qui étaient les gens qui trichaient aux cartes. Il y avait les baiffleurs, qui étaient les indiques, hein, qui jouaient double rôle, qui étaient souvent des gens embauchés par la police. Et puis il y avait aussi les prostituées homosexuelles. Alors bon, je ne sais pas si on peut les classer dans la coquille, c'est une chose un peu obscure. En tout cas, il y a plusieurs thèses qui s'affrontent là-dessus. Certains soutiennent mordicus que Villon était homosexuel. Il a certainement Colin de Cailleux l'était, a été certainement son initiateur là-dedans, parce qu'on peut imaginer aussi que dans ce milieu de brigands qui faisaient souvent des séjours en prison, bah, il y avait une forme d'homosexualité et d'urgence, comme on dit. Et puis, mais en même temps, on sait que la plupart des textes sont quand même adressés à des femmes, et je ne pense pas que c'était des femmes, que ce soit des femmes inventées, puisque il a quand même beaucoup, beaucoup fréquenté les bordels et les filles de joie de l'époque, quoi. Donc à cette époque-là, il entre dans la coquille et il va écrire 6 ballades en argot coquillard qui sont un véritable mystère. Un spécialiste, un médiéviste renommé, Pierre Guiraud, a écrit une thèse entière là-dessus en expliquant que ces 6 ballades en fait, peuvent se lire comme au moins 18 poèmes différents, c'est-à-dire qu'ils sont écrits en argot, mais comme dans les différentes fractions de cette mafia qui était la coquille, l'argot se comprenait de différentes manières, selon qu'on était un crocheteur, un rueur ou un biaiseur, par exemple. Donc, on a, et c'est d'une extrême complexité parce que à cette époque, le français n'est pas encore fixé et qu'on peut faire dire une chose et un sens aussi très différent à un même mot, quoi. Donc, on commence cette émission par quelque chose d'un petit peu, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais un petit peu de l'exégèse, un petit peu de texte. Je vais vous lire donc en argot coquillard la deuxième ballade de ces six ballades, et ensuite, Marc en lira une traduction en français contemporain, faite par Pierre Guiraud, justement, dans le sens strict d'une ballade écrite pour les rueurs, c'est-à-dire pour les tueurs, quoi, ceux qui surinent, ceux qui tuent à la dague. Et puis, enfin, Jean-Claude nous lira une version qui a été faite, elle, par Thierry Martin, qui, lui, a consacré un petit ouvrage entier à traduire ces ballades en termes, disons, des coquillards homosexuels, quoi. Voilà. Donc, la première, enfin, c'est plutôt la deuxième, d'ailleurs, de cette série, que je vais vous la lire en vieux français, uniquement pour le plaisir de la langue, parce qu'on n'y comprendra pas grand-chose. « Coquillard, en arruant sa ruelle, Menis vous chante que garde, que ni laisser écorre et pelle. Confie de Colin l'escalier, devant la roue, babillé, il babigna pour son salut. Panne savée ou oignon pelé, dont l'embourreux lui rompt le suc. Change en dos souvent, et tire tout droit au temple, et échique tôt en brouant, quand la jarte ne soit ample. Montigny y fut, par exemple, bien attaché au halgrup, et y jargonna, il le trempe, dont l'embourreux lui rompit le suc. Gailleur fait en piperie pour ruer les ninards au loin, à l'assaut, tôt, sans surie, que les mignons ne soient au gain farcis d'un plombis à coin, qui griffe au gard le duc, et de la dure si très loin, dont l'embourreux lui rompt le suc. Prince, hérière du ruel, et n'eussiez-vous de nier ne plus que, qu'aux gifles ne laissez l'appel pour l'embourreux qui rompt le suc. Évidemment, le long bourreux qui rompt le suc, on peut comprendre que c'est le bourreau qui rompt la nuque, qui rompt le cou. Donc toutes ces ballades disent la même chose. En gros, elles disent « ne vous faites pas prendre, soyez prudents, fuyez plutôt que de... » on entend bien qu'on parle ici aussi de Colin l'escalier, c'est-à-dire de Colin Cailleux qui fut son compagnon, enfin son compagnon de grugerie et de coquille, quoi, hein, celui avec qui d'ailleurs il a fait un de ceux avec qui il a fait le coup du collège de Navarre. Donc Marc, si tu veux bien nous lire la traduction en français contemporain, ce qui va peut-être nous aider un petit peu à comprendre.
Coquillard qui donnait dans le meurtre, je vous dis de prendre garde. Que vous n'y laissiez corps et peau, c'est ainsi que Colin l'écailleur fut amené à répondre à la question. Il raconta des bobards pour se sauver. Il ne savait pas dorer la pilule. À la fin, le bourreau lui rompt la nuque. Donnez le change, tournez les talons sur le champ, et gagnez tout droit la colline, décampez, en vitesse, au galop, de peur de vous retrouver en gorge pleine. C'est ainsi que Montigny, pris, y fut bien attaché au chevalet, et Dieu sait s'il y avala le bouillon. À la fin, le bourreau lui rompt la nuque. Maître, expert en piperie, pour allonger les coups, gagner la sortie, en vitesse, pas de sang, de peur que les compagnons ne soient, au gosier, garnis d'une corde ainsi qu'un fil à plomb, que saisit la niée à la gorge, et l'envoie dans les airs, loin de la terre. À la fin, le bourreau lui rompt la nuque. Prince, évitez le meurtre. Alors même que vous n'auriez ni sou, ni maille, de peur que la pelle ne vous reste dans la gorge, pour le bourreau qui rompt la nuque.
En coquilleur qui vous ruez dans les rondelles, mon burin vous chante de prendre garde que vous n'y laissiez votre peau et votre vie. Se confie à Colin l'ouvre-fesse. Devant taper dans le rond, il suça pour sauver sa bague. Mais il ne sut pas ouvrir l'oignon, d'où que le bourrineur lui fit gicler la sève. Changez souvent de place vos arrières, et allez tout raide vers le Saint-Siège. et mettez en échec les pénis en les faisant décharger, pour que vous ne soyez pas remplis par un nœud. C'est ainsi que Montigny fut solidement rivé à une bouche, et Dieu sait s'il y balança le bouillon, d'où que le bourrineur lui fit gicler la sève. Tringleur expert dans l'art de la pipe pour enculer profondément les débutants, vite, à l'assaut sans qu'on fasse cracher votre queue, afin que les Jules ne soient pas à ce festin, mais qu'ils soient farcis d'un poinçon à bagouze. Car celui qui branle l'oiseau du fouteur est bien loin de la terre, d'où qu'au bourrineur il fait gicler la sève. Prince, éloignez-vous des anus, et puissiez-vous être né sans rond ni pastille, pour que vous ne laissiez pas votre banane entre deux joues, à cause du bourrineur qui fait gicler la sève.
Voilà un exemple incroyable. On pourrait, alors, bon, les chastes oreilles auront fermé le poste, évidemment, mais on peut voir, enfin, dans le bouquin de Pierre Guiraud, qui s'appelle, d'ailleurs, Les balades, le jargon de Villon ou le gai savoir de la coquille, il analyse chacune de ses complaintes, de ses balades, et il donne mot à mot pour chaque version. Par exemple, on voit que en ruée, c'est-à-dire coquillard en arruant Zaruel, eh ben c'est, ça veut dire aussi bien arruer, c'est faire tomber à terre, hein, c'est un mot de vieux français, mais là, évidemment, c'est mis, ça devient baiser, celui qui couche à terre l'autre, parce que c'était la façon qu'avaient les homosexuels de coucher à terre leur partenaire. Hein, le suc, par exemple, le suc, effectivement, c'est devenu la sève, le suc en français moderne, mais c'est aussi la nuque. Le lambourreux, c'est le laboureur, celui qui laboure, et c'est aussi le bourreau, quoi. Le bourreau, c'est exactement la même racine, et ainsi de suite. Les rendez-vous sont partout à chaque mot, quoi. Donc c'est cette chose très étrange. Mais alors, pourquoi on en parle? Parce que il y a dans Villon à la fois, il y a une ambiguïté permanente de ces textes, quoi. Ce qui fait que, bon, nous, ce qui nous a amenés et ce qui fait qu'on l'aime, enfin, je pense tous ici, c'est le charme de cette langue qui chante d'une façon complètement inédite dans son époque, qui arrive comme quelque chose de très nouveau, hein. Et en même temps, on se rend compte petit à petit que c'est une véritable comédie humaine qui se joue là-dedans, à travers le testament. On peut prendre chaque vers dans le sens de l'affirmation, mais aussi dans le sens de la négation. Il y a là toute une présentation d'animaux fantastiques, un véritable carnaval qui s'organise à l'intérieur de toute cette poésie, et qui est aussi l'esprit de l'époque, un esprit de doute, un esprit dans lequel toute chose peut dire une chose et son contraire, un peu, d'une certaine manière, le règne de la tromperie. Et l'argot est une forme de tromperie, puisque c'est une façon de parler sans être en se protégeant d'être compris par les autres. Voilà, on va arrêter là cette longue partie sur les balades en argot, avec un peu de musique, en écoutant Georges Brassens avec la balade des dames du temps jadis.
Dites-moi où, dans quel pays, est Flora, la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïs, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cette Essoine. Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme Lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Thank you. prince nankéré de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
Voilà, nous sommes entre 1457 et 1461, je ne sais pas si vous voyez à peu près où on est. On est avec François Villon, quelque part dans l'ouest de la France. Donc François Villon qui a rejoint, qui est sans doute affilié à ces gangs de malfaiteurs de la Coquille, donc, avec ses amis Colin de Cailleux et Régnier de Montigny, avec qui il a fait le coup du vol du Collège de Navarre. Erre donc dans toute cette région de l'Ouest, et il va faire un court séjour à la cour de Charles d'Orléans. Il va même participer au concours de Blois, en écrivant sur un thème imposé son texte « Je meurs de soif auprès de la fontaine ». Mais la justice va le rattraper dans cette période. Elle va le rattraper parce que en 58, Guy Tabary, qui est un de ses complices au vol du Collège de Navarre, va être torturé et il va faire des aveux circonstanciés, il va dénoncer Villon. Donc Villon finit par être arrêté, peut-être pas pour cette affaire-là, mais pour une autre, on ne sait pas laquelle, pour une affaire de vol probablement, et il est mis en prison par l'évêque d'Orléans, Thibaud d'Aucigny, qui va être d'ailleurs le premier dédicataire du testament. Le testament commence avec cette charge très dure contre Thibaud d'Aucigny, et il est probable, il est même certain, que Villon subit la question par l'eau. D'ailleurs, quand on revient à la balade qu'on a dite un petit peu avant, la balade en coquillard, on y parle de la jarte. La jarte, craignez quand la jarte ne soyez ample. La jarte, alors dans le sens... on a entendu le sens en argot homosexuel, mais la jarte, c'est aussi l'énorme gourde qu'on met comme un entonnoir dans la bouche du supplicié qui est attaché et dans laquelle on verse des litres et des litres et des litres d'eau. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs, il en but tant qu'il... cette référence à l'eau qu'on boit, eh bien, elle peut être à la fois la référence très romantique de la fontaine, et elle peut être aussi cette horrible référence à la torture. Donc, il est probable que Villon gagne le concours de Blois avec sa version de la ballade. Et Charles d'Orléans a certainement le sentiment d'avoir devant lui un très très grand poète. Sauf que Villon, lui, ça ne l'intéresse pas de faire le beau à la cour. Et Villon va abandonner très très vite cette piste. Il va repartir avec ses copains coquillards sur la route à faire des mauvais coups. Néanmoins, on va lire la ballade à Samy qui est un petit peu écrite dans cet esprit.
Fausse beauté qui tant me coûte cher, rude en effet, hypocrite douleur, amour dur plus que fer à mâcher, nommée que puis de ma défaçon sœur, cher me félon, la mort d'un pauvre cœur, orgueil mussé qui Jean met au mourir. Dieu sans pitié ne veut droit de rigueur, sans empirer un pauvre secourir. Mieux m'eût valu avoir été cherché et ailleurs secours, c'eût été mon honneur, rien ne m'eût su hors de ce fait haché, trotter m'en faux en fuite et déshonneur, haro, haro, le grand et le mineur, et qu'est-ce si mourait sans coup férir, ou pitié veut, selon cette teneur, sans empirer un pauvre secourir? Un temps viendra qui fera dessécher, jaunir, flétrir vos trépanies fleurs. Je m'en risse, ce temps puisse mâcher. Las, mais nenni, ce sera donc folleur. Vieille, je serai, vous, laide sans couleur. Or, buvez fort, tant que rue peut courir. Ne donnez pas à tous cette douleur, sans empirer un pauvre secourir. Prince, amoureux, des amants le graigneur, votre malgré ne voudra encourir. Mais tout franc cœur doit, par notre Seigneur, sans empirer, un pauvre secourir.
Nous étions 4 bacheliers, sans vergogne, la vraie crème des écoliers, pour offrir aux filles des fleurs, sans vergogne. Nous fîmes un peu voleurs, un peu voleurs. enfante du pays, sans vergogne, aux gendarmes nous ont trahis, nous ont trahis. Et l'on vit quatre bacheliers sans vergogne, qu'on emmène les mains liées, les mains liées. On fit venir à la prison sans vergogne les parents des mauvais garçons, mauvais garçons. Les trois premiers pères, les trois, sans vergogne, en perdirent tout leur sang-froid, tout leur sang-froid. Comme un seul, ils ont déclaré, sans vergogne, qu'on les avait déshonorés. Déshonoré. Comme un seul on dit c'est fini, sans vergogne, fils indigne, je te renie, je te renie. Le quatrième des parents, sans vergogne, c'est t'es le plus gros, le plus grand, le plus grand. Quand il vint chercher son voleur, sans vergogne, on s'attendait à un malheur, à un malheur. Mais il n'a pas déclaré non, sans vergogne, que l'on avait sali son nom, sali son nom. Dans le silence on l'entendit, sans vergogne, qui lui disait bonjour petit, bonjour petit. Pas sans vergogne, lui tendre sa blague à tabac, blague à tabac. Je ne sais pas s'il eut raison, sans vergogne, d'agir d'une telle façon, telle façon. Je sais qu'un enfant perdu, sans vergogne, a de la corde de pendu, de pendu, a de la chance quand il a, sans vergogne, un père de ce tonneau-là, ce tonneau-là. Chrétien du pays, sans vergogne, juge que cet homme a failli, homme a failli. Ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile c'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu. Ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile c'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu.
Voilà, Georges Brassens chantait donc ces quatre bacheliers, bien inspiré évidemment par les quatre bacheliers qui étaient, je ne sais pas qui était le quatrième, si c'était Guy Tabary, mais en tout cas François Villon, Régnier de Montigny, Colin Cailleux et peut-être Guy Tabary. En tout cas, on sait que Brassens était un des grands admirateurs de Villon, hein, qui n'en a pas eu beaucoup d'ailleurs dans l'histoire littéraire, puisqu'on en a parlé un petit peu au début de l'autre émission. Il a sombré dans une sorte d'oubli pendant 3 siècles, et ça n'est que, disons, à la fin du 19e qu'il a commencé à être réhabilité. Donc on parlait, je m'excuse d'abord d'une erreur que j'ai faite tout à l'heure, j'ai parlé de la Ballade à Samy comme quelque chose qui relevait du style du concours de Blois à la cour de Charles d'Orléans, pas du tout, non, ça c'est une version très Villon, qui parle toujours de la tromperie des femmes, ce qui n'est pas du tout le cas de la Ballade du concours de Blois qu'on va lire maintenant. Patrick.
Je meurs de soif auprès de la fontaine, chaud comme feu et tremble dent à dent. En mon pays suis en terre lointaine, laisse un brasier frissonne tout ardent. Nu comme un ver, vêtu en président, je ris en pleurs et attends sans espoir. Confort reprend en triste désespoir. Je m'éjouis et n'ai plaisir aucun. Puissant, je suis sans force et sans pouvoir, bien recueilli, débouté de chacun. Rien ne m'est sûr que la chose incertaine. Obscur, force ce qui est tout évident. Doute ne fait, force en chose certaine. Science tient à soudain accident. Je gagne tout et demeure perdant. Au point du jour, dit Dieu vous doit bonsoir. Gisant en vers, j'ai grand paour de choir. J'ai bien de quoi, et si n'en est pas un. Échoit à temps, et d'homme ne suis oir. Bien recueilli, débouté de chacun. De rien n'est soin, si, mais toute ma peine, d'acquérir bien, et n'y suis prétendant. Qui mieux me dit, c'est s'il plus m'atteigne, et qui plus vrai, lors plus me va bourdant. Mon ami est, qui me fait entendant d'un signe blanc, que c'est un corbeau noir, et qui me nuit, croit qu'il m'aide à pourvoir. Bourde, verté, aujourd'hui m'est tout un. Je retiens tout, rien ne sait concevoir, bien recueilli, débouté de chacun. Prince Clément, or vous plaise savoir que j'entends mout et n'ai sens de savoir. Partial suis à toute loi commun. Que sais-je plus? Quoi? Les gages ravoir, bien recueilli, débouté de chacun.
Mort, j'appelle de ta rigueur, qui m'a ma maîtresse ravie et n'est pas encore assouvie si tu ne me tiens en langueur. Onque puis n'eut force ni vigueur, mais que te nuisait-elle en vie, mort? Deux étions et n'avions qu'un cœur. S'il est mort, force est que de vie. Voir ou que je vive sans vie, comme les images par cœur, mort.
Tant gratte chèvre que mal gît, tant va le pot à l'eau qu'il brise, tant chauffe on le fer qu'il rougit, tant le mail on qu'il se débrise, tant vaut l'homme qu'on le prise, tant s'éloigne il qu'il n'en souvient, tant mauvais est qu'on le déprise, tant crie-t-on Noël qu'il vient. Tant parle-t-on qu'on se contredit, tant vaut bon bruit que grâce acquise, tant promet-on qu'on s'en dédie, tant promet-on que chose est acquise, tant plus chère, plus équise, tant l'acquiert-on qu'on y parvient, tant plus commune et moins requise, tant crie ton Noël qu'il vient. tant aime mon chien qu'on le nourrit, tant court chanson qu'elle est apprise, tant garde on fruit qu'il se pourrit, tant bas on place qu'elle est prise, tant tarde on que faux l'entreprise, tant se hâte on que malade vient, tant embrasse on que chêle a prise, tant crie ton Noël qu'il vient. Tant raille on que plus on en rit, tant dépend on qu'on a chemise, tant est-on franc que tout y frit, tant vaut tiens que chose promise, tant aime-t-on Dieu qu'on fuit l'église, tant donne on qu'emprunter convient, tant tourne vent qu'il chète en bise, tant crie ton Noël qu'il vient. Prince, tant vie folle qu'il s'avise, tant va-t-il qu'après il revient, tant le mat on qu'il se ravise, tant crie ton Noël qu'il vient.
Voilà, sur cette chanson prophétique de Leonard Cohen, qui dit en gros « No future », voilà, on peut rejoindre aussi la violence du temps de François Villon. On l'a laissé donc dans cette errance dans l'ouest de la France, et il arrive, on l'a dit, il est fait prisonnier à la prison de Main qui dépend de la ville d'Orléans. Et là, il est donc prisonnier sous la quête du cardinal Thibaut d'Aucigny. On a déjà dit que c'est la teigne pour Villon, quoi, celui qui va l'enfoncer dans la douleur et dans une situation très très misérable, puisqu'il subit la question. Thibaut d'Aucigny le fait torturer, il subit la question à l'eau, hein, et il ne doit de sortir de cette prison que au passage de Louis XI qui vient d'accéder au trône de France et qui, comme se faisait souvent les grâces royales, en passant dans la ville d'Orléans, décide de gracier tous les prisonniers, puisque la prison de Main-sur-Loire dépendait de la prison de l'évêque d'Orléans. Villon connaît là une très très grande détresse. Il est très abîmé, parce qu'on peut bien supposer qu'il a il a déjà été abîmé simplement par sa vie de patachon, mais aussi on imagine bien ce que sont les hivers à l'époque au Moyen-Âge. Les coquillards vivent la plupart du temps dehors, il subit le froid, les gelures, et en plus la torture. Il est très très abîmé, il en témoigne, dans le testament il se décrit déjà, là il doit avoir à peu près, il a 25 ans, entre 25 et 29 ans, comme un type qui a perdu ses cheveux, donc qui ne peut même plus d'ailleurs réclamer la justice religieuse, puisqu'on ne voit plus sur lui la tonsure des clercs. Alors c'est intéressant de savoir qu'à l'époque, en plus, la justice pour les clercs, c'est-à-dire pour les gens qui avaient étudié dans l'Église, comme François Villon, puisque toutes les universités, les facultés dépendaient de l'Église, les étudiants, eux, avaient droit à la justice religieuse, et il était hors de question pour la justice séculière de les juger. Si un juge se permettait de juger un clerc, il pouvait être excommunié. Mais on voit là que la justice religieuse n'est pas beaucoup plus tendre que la justice séculière. Et d'ailleurs, petit à petit, dans ces années-là, va s'établir une règle qui s'appelle la règle d'incorrigibilité, qui correspond pour nous peut-être aujourd'hui à la notion de récidive, et qui fait qu'à un certain moment, la justice qui dépend du roi peut transgresser cette règle et décider qu'elle passe outre et qu'elle condamne hors de la justice religieuse. C'est d'ailleurs ce qui va arriver à Colin Cailleux, qui est exécuté dans ces années-là, et à Régnier de Montigny, les deux plus proches amis de Villon. Voilà. Donc Villon sort de la prison de Main dans un triste état, et l'épître qu'il écrit à ses amis est aussi un appel au secours qu'on peut entendre dans d'autres parties du testament.
« ayez pitié de moi, à tout le moins s'il vous plaît, mes amis. » En fosse j'y, non pas sous où ne mets, en cet exil auquel je suis transmis par fortune comme Dieu l'a permis. Filles aimant, jeunes gens et nouveaux, danseurs, sauteurs faisant les pieds de veau, vifs comme dard, aigus comme aiguillon, gousiers tintant clair comme cascaveau, le laisserai là, le pauvre Villon ? Chantre chantant à plaisance sans loi, galant riant, plaisant en fait et en dit, goureux à l'enfranc de faux or, d'alois, gens d'espérite un petit étourdi, trop de mourés car ils meurent entendis, faiseurs de lait, de motet et rondeau, quand mort sera vous lui ferez chaudeau, où gît il n'entre éclair ne tourbillon, de murs épais on lui a fait bandeau, le laisserez là le pauvre Villon ? Venez le voir en ce piteux arroi, noble homme, franc de quart et de dit, qui ne tenait d'empereur ne de roi, mais seulement de Dieu de paradis. Jeûner lui faut dimanche et merdi, dont les dents à plus longues que râteau, après pain sec, non pas après gâteau, en ses boyaux verse eau à gros bouillon. Bas en terre, table n'a de tréteau, le laisserait là le pauvre Villon. Prince nommé, ancien, jouvenceau, impénétrez-moi, grâce et royaux sceaux, et ne montez en quelque corbillon. Ainsi le font à l'un à l'autre pourceau, car où l'un braie, il fuit à Monceau. Le laisserait là le pauvre Villon ?
Si celle que jadis servoie, de si bon cœur et loyaument, dont tant de maux et griefs j'avois, et souffrait tant de tourments, se dit mue au commencement, sa volonté Mais Nenny, là, j'eusse mis peine aucunement de moi retraire de ses bras. Abusé m'a et fait entendre toujours d'un que ce fut un autre, de farine que ce fut cendre, d'un mortier un chapeau de feutre, d'un vieil mâche-fer que fut pôtre, de deux as que c'est toi terne, toujours trompé, ou moi, ou autre, et rend des vessies pour lanterne. Du ciel, un poil d'arin, des nues, une peau de veau, du matin, que ce soit le serin, d'un trognon de chou, un aveau, d'or de cervoise, vin nouveau, d'une truie, un moulin à vent, d'une harte, un écheveau, d'un gras abbé, un poursuivant. Ainsi mon amour abusé est pourmené de l'huisse aux pelles. Je crois qu'homme né si rusé fut fin comme argent de coupelle, qui n'y laissa linge, drapelle, mais qu'il fut ainsi manié comme moi, qui partout m'appelle l'amant remis et renié. Je renie amour et dépite et des filles à feu et à sang. Mort par elles me précipite et ne leur enchaud pas d'un blanc. Ma vieille ou mis sous le banc, amant je ne suivrai jamais. Si jadis je fus de leur rang, je déclare que n'en suis mai.
La femme en bleu voudrait se venger, et l'homme en blanc dit que ses amis l'ont déserté. Le fleuve est gonflé de boîtes de conserve rouillées, et sur votre terre promise, les arbres commencent à brûler. Il n'y a plus de lettres dans vos boîtes, il n'y a plus de raisins sur la vigne, il n'y a plus de chocolat. Dis que ton amant a une jambe brisée, et c'est à cause de lui que tu ne peux plus te reposer. Eh bien, j'ai vu cet homme au petit matin, il dévorait une femme où les lions mangent les chrétiens. Il n'y a plus de lettres dans. Un médecin très malin l'a stérilisé hier, et le seul homme dynamique des révolutionnaires a enseigné à 1000 femmes comment tuer l'enfant dans le chair. Il n'y a plus de lettres dans vos boîtes.
Yeah.
Au retour de dures prisons où j'ai laissé presque la vie, si fortune a sur moi envie, jugez si elle fait mes prisons. Il me semble que, par raison, elle dut bien être assouvie au retour, ce si pleine et de déraison que veuille que du tout dévie. Plaise à Dieu que l'âme ravie en soit là-haut, en sa maison, au retour.
Le débat du cœur et du corps de Villon.
Qu'est-ce que je vois ?
C'est moi.
Qui ?
Ton cœur, qui ne tient mais qu'à un petit filet. Force n'est plus, substance ni liqueur. Quand je te vois retrait ainsi, soleil, comme pauvre chien tapis en reculet.
Pourquoi est-ce ?
Pour ta folle plaisance.
Que t'en chaut-il ?
J'en ai la déplaisance.
Laisse-moi en paix.
Pourquoi ?
J'y penserai.
Quand sera-ce ?
Quand serai hors d'enfance.
Plus ne t'en dis.
Je m'en passerai.
Que penses-tu ?
Être homme de valeur.
Tu as 30 ans.
C'est l'âge d'un mulet.
Est-ce enfance ?
Nelly.
C'est donc folleur qui te saisit ?
Par où ? Par le collet ? Rien ne connaît.
Si fait.
Quoi ?
Mouches en lait. L'un est blanc, l'autre est noir. C'est la différence.
Est-ce donc tout ?
Que veux-tu que je te tense ? Si n'est assez, je recommencerai.
Tu es perdu.
J'y mettrai résistance.
Plus ne t'en dis.
Et je m'en passerai. D'où vient ce mal ?
Il vient de mon malheur. Quand Saturne me fit mon fardelet, ses Moïmis, je le crois, ses folleurs, son seigneur est et te tient son varlet. Vois que Salmon écrit en son relais, « Homme sage, se dit-il, a puissance sur planète et sur influence. »
Je n'en crois rien. Tel qu'ils m'ont fait serait. Que dis-tu ?
Da, certes, c'est ma créance.
Plus ne t'en dis.
Et je m'en passerai.
Veux-tu vivre ?
Dieu m'endoint la puissance.
Il le faut.
Quoi ?
Remords de conscience. Lire sans fin.
En quoi ?
Lire en science. Laisser les fous.
Bon, j'y aviserai.
Or le retient.
J'en ai ses bien souvenances.
N'attends pas tant que tourne à déplaisance. Plus ne t'en dis.
Et je m'en passerai.
François Villon est sorti de la prison de Main si je le dis bien, comme me l'a fait remarquer notre camarade Bruce, qui est allé, si je ne me trompe pas, Huisseau-sur-Mauves, qui est l'endroit exact où se trouvait François Villon, endroit qu'on peut visiter, endroit sinistre où on peut se rendre compte dans quelles conditions il a été détenu. Donc Villon va sortir de prison, il va sortir, je crois que c'est en 61, hein. Il a été rattrapé par la justice, hein, puisque Tabary a avoué le vol du Collège de Navarre, et il va se passer une chose assez terrible. Bon, il écrit la plupart du testament dans cette dernière année, dernière année qu'on connaît de sa vie, hein, donc entre 61 et 62, je crois, 1461-1462, et il va récupérer toutes les matières de tout ce qu'il a écrit tout au long de sa vie, et il va refaire ce testament en déchargeant toute sa hargne contre Thibaud d'Ossigny, contre la justice religieuse et séculière, les deux. Et puis arrive cette histoire terrible, c'est qu'il est mêlé à une bagarre, alors a-t-il fomenté cette bagarre ou pas, avec le notaire Ferrebouc, qui est précisément le notaire chargé d'instruire l'affaire du Collège de Navarre. Et c'est un de ses compagnons, je crois que c'est je me souviens de Turgis comme du prénom, Robin Turgis je crois, qui donne un coup de poignard au notaire Ferrebouc. Donc Villon, lui, dès qu'il voit que ça tourne au vinaigre, s'éloigne du lieu de cette bagarre, mais néanmoins il est arrêté comme complice, et la justice à l'époque n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. On sait que Villon est récidiviste, multirécidiviste même, et là il est condamné à mort. Il est condamné à mort, à être pendu donc, et il ne doit son salut, parce qu'il faut rappeler quand même qu'on pouvait être condamné simplement pour complicité, pour avoir essayé de porter atteinte à un homme de justice, quoi. Il ne doit son salut en fait que, connaissant un petit peu le droit de l'époque, il en appelle, comme on dit, parce qu'il fallait que l'accusé dise à haute voix « j'en appelle ». Donc il présente un recours en grâce, et le roi accepte son recours en grâce, eu égard à la grandeur du poète qu'on connaît quand même, parce que ses œuvres circulent par la voix, et aussi le fait d'avoir gagné au concours de Blois l'a fait connaître. Donc il est quand même banni pour 10 ans de la ville de Paris, de tout le comté de Paris, et à ce moment-là, on perd la trace de François Villon. François Villon s'en va dans les brumes de l'histoire, on le retrouvera, François Rabelais en parlera dans le Car Livre, en inventant une troisième vie à François Villon quelque part. En Anjou, il serait devenu battleur et ferait partie d'une troupe de théâtreux qui montent des mystères. En tout cas, le mystère, lui, reste complet sur François Villon. Il disparaît et il est très très amoindri, parce que physiquement, il a subi deux fois la question, dont la grande question, et il est probable qu'il mourra des suites de ses blessures. On va finir donc avec, comme il se doit, la ballade finale.
Ici se clôt le testament et fini du pauvre Villon. Venez à son enterrement quand vous aurez le carillon, vêtu rouge comme vermillon, car en amour mourut martyr. Se jura-t-il sur son couillon quand de ce monde vous partir. Et je crois bien que pas n'en ment, car chassé fut comme un souillon de ses amours haineusement, tant que, d'ici à Roussillon, Brosniane Brossillon, qui n'eut, se dit-il sans mentir, un lambeau de son cotillon quand de ce monde vous partir. Il est ainsi et tellement qu'en mourut n'avoit qu'un haillon, qui plus, en mourant malement, les poignois d'amour l'aiguillon. Plus aigu que le ranguillon d'un baudrier lui faisoit sentir, c'est de quoi nous émerveillons quand de ce monde vous partir. Prince, gens comme Émerillon, sachez qu'il fit au départir un trébut de vin morillon quand de ce monde vous partir.
Ballade de merci. À chartreuse et à célestin, à mendiants et à dévotes, à musards et claquepatins, à servants et filles mignottes portant surcot et juste cotte, à cuidereaux d'amour transi, chaussant sans effort fauves bottes, je crie à toutes gens merci. À fillette, montrant tétin, pour avoir plus largement hôte, à ribleur, mouveur de hutin, à bateleur, trayant marmotte, à fous, folles, à sots, à sottes, qui s'en vont sifflant, six à six, à vessie et mariotte. Je crie à toutes gens,
merci. Sinon aux traîtres chiens matins qui m'ont fait ronger dure crotte, mâcher main soir et main matin, corps, je ne crains trois crottes. Je fisse pour eux pèse et rotte. Je ne puis, car je suis assis. Au fort, pour éviter riotte, je crie à toutes gens merci. Qu'on leur froisse les 15 côtes de gros maillets forts et massis, de plombés et telles pelotes. Je crie à toutes gens merci.
Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci.
L'amour n'a pas d'âme.
Vous nous voyez si attachés, 5-6.
Et la mer est ta...
Quand de la chair que trop avons nourri.
Là-bas.
Elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous les eaux, devenons cendre et poudre, de notre mal personne ne s'en rimait, priez Dieu que tous nous veillent absoudre.
Les mots sont les mots.
Si frères vous clamons, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy, par justice.
Toujours mal crié.
Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis.
Pourtant, il faut bien...
Envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre.
Se servir des mots.
Nous sommes morts, âme ne nous harie, mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.
On nous a laissé.
La pluie nous a débué et lavé, et le soleil desséché et noirci.
Écrit sur la vie.
Pis, corbeaux, nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis.
Crier dans les cris.
Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becqueté d'oiseaux que des accoudres.
Des amants lassés.
Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre, frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Vous nous voyez si attachés, 5-6. Quand de la chair que trop avons nourri, elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous les eaux, devenons cendre et poudre, de notre mal personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
L'amour,
prince Jésus,
n'a pas d'âme,
qui sur tous a maîtrise,
et la mer.
Garde qu'enfer naît de nous, Seigneurie.
Là-bas,
à lui,
sur la plage,
n'ayons que faire, ni que soudre. Homme,
n'a pas d'âme.
Ici, n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veillent absoudre.
Ici s'achève la dernière émission de l'année, la dernière émission de la Brigade d'intervention poétique avec cet hommage à François Villon. Il nous faut remercier d'abord tous les musiciens qui ont joué ou accompagné les textes qui ont été dits. Georges Brassens, évidemment, Leonard Cohen, Graham Allwright, qui chantait d'ailleurs Diamant dans la mine, une adaptation de Leonard Cohen. Gorecki, le compositeur Gorecki, qui accompagnait la voix de Michael Gluck, Dino Saluzzi, et enfin nos éternels compagnons de Hadouk qui jouent ce magnifique indicatif. Je vous rappelle que la BIP est un gang mobile, qu'il intervient partout, et si vous êtes intéressé à le faire venir dans vos lieux de travail, dans vos lieux de loisirs, dans vos lieux de paresse, nous le faisons partout où les gens peuvent être surpris par un petit peu de poésie. Vous pouvez nous envoyer des mails sur l'adresse de Clapas et également sur le site de la compagnie michelarbatz.com. Il y a un lien. Nous remercions évidemment Bruce, le Toronto Bus Torrent, qui est derrière la vitre indéfectible et qui nous souffle parfois des détails fort pertinents sur la vie des poètes. Donc on espère vous retrouver l'an prochain dans une nouvelle grille et avec des tas de beaux projets, je peux dire déjà Dans le désordre, Arthur Rimbaud, Armand Gatti qui peut-être nous fera le plaisir de sa visite, César Valiro, Roland Dubillard et plein d'autres. Vos suggestions sont les bienvenues et vos voix aussi, si vous voulez dire des textes, faites-le savoir. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose. Et bon été en poésie.